aussi, s'il te plaît, merci. Mais j'espère que vous allez bien. Ça fait plusieurs semaines que je ne suis pas venu sur République hein, pour différentes raisons, mais je suis heureux et béni de découvrir la présence de Dieu. Amen. Et de voir aussi mes frères et sœurs qui aiment la présence de Dieu. Vous aimez la présence de Dieu? Et vous aimez la parole de Dieu. Amen. Tournez avec moi sans plus tarder dans Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 17. On va vraiment disposer nos cœurs à recevoir pleinement la parole de Dieu ce matin. Amen. Donc, on a un seul culte aujourd'hui, comme il a été mentionné, parce qu'on a accepté une entente avec le théâtre qui doit libérer, je pense, c'est pour la mairie. Donc, à 12h30, on devra sortir. Mais amen, le Seigneur est avec nous. Amen. Alléluia. Le titre de mon message est celui-ci, et je l'ai oublié, mais il va apparaître à l'écran. « Quand garder attire le ciel. » Quand garder attire le ciel. Il y a de nombreuses années, j'étais au Canada. Hein, je suis Canadien, si vous ne l'avez pas remarqué encore, j'ai un petit accent. Et puis, au Canada, on ne met pas des... chez nous, on dit des mitaines, mais je ne sais plus comment on dit en français, des moufles. Des moufles, hein, c'est ça, c'est pour aller au ski. Hein. Mais chez nous, ce n'est pas juste pour aller au ski, c'est pour survivre aussi. L'hiver, on met des moufles parce qu'il fait très, très froid. Je me souviens, il y a de nombreuses années, ma petite... j'ai deux filles et une de mes petites filles. Je voulais lui démontrer un principe de la vie très important, le principe d'avoir des responsabilités. Je pense qu'elle avait à peu près 4 ans. Et ce jour-là, je lui dis à Abigail, on va aller acheter des bonbons. Papa va te donner un dollar. Mais ce n'est pas papa qui va garder le dollar ou qui va tenir le dollar, c'est toi. Je te confie le dollar, tu es responsable. Si tu perds le dollar, il n'y aura pas de bonbon. Alors je mets le dollar dans sa main, elle ferme la main, on met les moufles, je les mets dans la voiture, on va au magasin pour acheter des bonbons. On arrive au magasin, je la sors de la voiture, je la fais rentrer dans le magasin, j'enlève les moufles, on enlève le bonnet, on est bien et tout. Et puis là, on commence à choisir les bonbons pour un dollar, hein, pour une valeur d'un dollar et tout. Tac, 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 tac. Aujourd'hui, on n'a plus rien pour un dollar, mais à l'époque, on avait quelques bonbons quand même. Et puis, elle choisit des bonbons, elle était toute petite, elle choisit des bonbons comme ça au comptoir hein, du magasin. Et puis à la fin, j'ai dit, mais maintenant, il faut payer les bonbons. J'ai dit, ouvre la main. Et elle me regarde, elle dit. J'ai dit, Abigail, il faut ouvrir la main. Je dis, ouvre la main pour payer les bonbons. Et pourquoi tu ne veux pas ouvrir la main? Parce que si j'ouvre la main, je vais perdre mon dollar. Je dis, mais fais-moi confiance, on ne va pas le perdre. Mais si je paye, je n'aurai plus de dollars. Mais c'est ça la vie, on paye et puis après, il n'y a plus d'argent. Mais je dis, ça, c'est une autre histoire. Bon. Je dis, ouvre ta main. Là, elle commence à ouvrir ses petits doigts tranquillement. Et je trouve le dollar chaud, humide, trempé. Et elle me donne le dollar et le dollar est imprégné dans sa main. Même parce que nous, on a un petit canard, un huard. Et on voyait le huard imprégné dans sa main. Et c'est là où je veux vous amener aujourd'hui, dans Jean 17. Comme Abigail a dû garder, la seule chose qu'elle avait à faire, c'était de garder ce que papa lui avait donné. J'aimerais vous montrer qu'en Jésus-Christ, on est sorti de tout ce système des œuvres méritoires pour plaire à Dieu. Mais il y a une chose que Dieu nous demande, c'est de ne pas perdre ce qu'il nous confie. Il nous confie des choses spirituelles, il nous confie des principes, des valeurs qu'on va voir dans un instant. Et le Seigneur nous demande de bien garder, parce qu'on va le voir tout à l'heure, parce que ça sera défié. Il y a des voleurs de trésors. Et la seule chose que Dieu nous demande, c'est de bien garder ce qu'il nous confie. Et dans Jean 17, c'est le dernier entretien entre Jésus et ses disciples avant qu'il aille à la croix. C'est, on pourrait dire vraiment c'est le dernier grand cœur à cœur entre Jésus et les siens. L'entretien commence en Jean 14, 15, 16 et 17. Et au chapitre 17, Jésus prie pour eux. Il a terminé de s'entretenir avec eux. Et le centre de tout ce... Il va leur dire beaucoup de choses. Il y aura des échanges, il y aura toutes sortes de sujets qui seront traités pendant ce long échange. Mais ça revient toujours à un mot. Il y a un mot qui revient tout au long de ces chapitres 14, 15, 16 et 17. Gardez. Keep. Gardez. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Celui qui m'aime garde ma parole, mes paroles. Et ce mot revient souvent, de garder, de garder. Et en Jean 17, le Seigneur lève la voix vers le Père et prie, Et on va le lire ensemble au chapitre 6. Je t'ai fait connaître, chapitre 17, verset 6. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Il parle de ses disciples. Ils t'appartiennent. Et plus tard, dans sa prière, on n'ira pas jusqu'à là, mais il dira vraiment, je prie pour eux et aussi pour ceux qui croiront en ce que les disciples diront. Donc, il parle de nous. Il remonte jusqu'à, il va aller jusqu'à la fin des temps. Il dira, je prie pour mes disciples, mais aussi tous les autres qui viendront après eux. Et Jésus dit, regardez bien ceci, que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartiennent et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Dites avec moi, gardé. Ils ont gardé. Allons au verset 11. Bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi, mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom. Prenez ces deux paroles. Ils ont gardé ta parole, garde-les. Il y a d'innombrables promesses dans la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, pour ceux et celles qui gardent la parole de Dieu. Il faut mettre les choses simples. Il ne faut pas aller plus loin que la parole de Dieu. En Jésus-Christ, dans la nouvelle alliance que nous avons avec lui, la seule chose que Dieu nous demande, c'est de garder sa parole. On va voir ce que ça veut dire. Mais elle a gardé, pourquoi? Parce qu'il y a d'innombrables promesses, quelques-unes apparaissent à l'écran. Ils ont gardé ta parole, Père Saint, garde-les. C'est une excellente preuve d'amour envers Dieu. Il sera aimé de mon Père et moi aussi je l'aimerai. Je me manifesterai à lui, nous viendrons à lui, nous établirons notre demeure chez lui. Vous demeurerez dans mon amour, votre joie sera complète. Ça, ce sont que les promesses dans le chapitre, mais il y en a beaucoup plus dans la parole de Dieu. Mais ici, chaque promesse que j'ai mis à l'écran, sont directement reliés à une seule demande, si vous gardez mes commandements, si vous gardez ma parole. Maintenant, regardez bien ce que ça dit. Ils ont gardé ta parole, Père Saint, garde-les. Regardez la première promesse. Si je garde la parole de Dieu, Dieu garde toute ma vie. Toute ma vie. Ce n'est pas juste que Dieu va te garder en vie, mais que ta vie sera misérable. Non. Ce n'est pas non plus que tu vas devenir riche. On ne parle pas de ces choses-là. Mais tout ce qui est inclus dans ta vie sera gardé. Sous une seule condition, ils ont gardé ta parole, garde-les. Première promesse. Deuxième promesse. C'est une excellente preuve de l'amour de Dieu. Beaucoup de chrétiens qui aiment Dieu cherchent à être agréables à Dieu. Ils se posent la question au quotidien. Seigneur, comment est-ce que je peux avoir cette paix, cette joie dans ma vie, ce sentiment profond que je suis enfin agréable à Dieu. Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. La seule chose que Dieu demande, c'est de garder ses commandements. Et c'est une preuve d'amour. Dieu le considère comme une preuve d'amour envers le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, aux yeux de Dieu, tu es agréable à Dieu. Dieu ne regarde pas tes heures de prière ou combien de versets tu connais par cœur ou combien d'heures tu as évangélisé sur la rue cette semaine ou combien de pauvres tu as aidé ou est-ce que tu t'es épuisé pour servir l'Église. Dieu ne regarde pas à ces choses-là. Dieu regarde à une seule chose. Il y a une chose principale qui lui tient à cœur. D'abord, les autres choses aussi sont importantes, mais d'abord, Dieu regarde à une chose. Est-ce que tu gardes ma parole? Est-ce que tu la chéris? Est-ce que tu la préserves? Est-ce qu'elle est vraiment au fond de ton cœur? Est-ce que tu la gardes? Et si tu la gardes, moi, Dieu, je considère cela comme la plus belle preuve d'amour. Tu m'es agréable parce que tu gardes ma parole. Il sera aimé de mon Père et moi aussi je l'aimerai. C'est une promesse extraordinaire. Beaucoup cherchent à être touchés de Dieu, visités de Dieu, à ressentir l'amour de Dieu. Je suis convaincu que l'homme, le juste, vivra par la foi. Mais aussi, on a besoin parfois de ressentir l'amour de Dieu, n'est-ce pas? On ne peut pas vivre comme ça toute notre vie juste en sachant intellectuellement que Dieu nous aime. On a besoin. Ma femme, on a besoin parfois d'un petit câlin, tu vois. Et avec Dieu, on a besoin aussi de ressentir l'amour de Dieu. Et là, il y a une promesse. Si je garde sa parole, je serai aimé de lui et je serai aimé du Père. Je te garantis, si tu aimes la parole de Dieu, l'amour de Dieu va s'approcher de toi. Dieu va te visiter. Dieu va s'approcher, Dieu va te prendre dans ses bras, Dieu va poser sa main d'amour sur toi. Dieu va témoigner à ton cœur qu'il t'aime. Tu vas ressentir aussi. Oui, on vit par la foi, mais on a parfois besoin de ressentir l'amour de Dieu. Tu ressentiras l'amour de Dieu. Ça, ce n'est pas toi, tu ne peux pas le fabriquer, mais Dieu lui-même le fera. Dieu s'approchera de toi et te manifestera son amour. Il sera aimé de mon Père et moi aussi. Regardez ce que c'est. Jésus dit, je me manifesterai à lui. C'est incroyable. Il y a des gens à travers l'histoire du christianisme, qui, surtout au Moyen-Âge, qui s'enfermaient dans des donjons, dans des monastères, qui ont passé des années à chercher est-ce que Dieu se manifeste à eux et Dieu ne l'a pas fait. Parce qu'ils cherchaient à faire toutes sortes d'œuvres pour lui faire plaisir. Ils sont passés par-dessus ce verset. Où ça dit, si tu gardes mes commandements, je me manifesterai. Tu as besoin que le Seigneur se manifeste à toi, tu as besoin qu'il te parle, tu as besoin qu'il te dirige, tu as besoin qu'il te guérisse, tu as besoin qu'il traite quelque chose du passé, du présent, du futur, peu importe. Il y a des choses qui se règlent seulement lorsque Dieu se manifeste. Mais il a promis qu'il le ferait, pas pour ceux qui font toutes sortes d'efforts pour qu'il se manifeste, ceux qui gardent sa parole. Et si tu gardes ta parole, attends-toi à une visitation de Dieu. Vraiment, crois. Crois, parce que les promesses de Dieu, on les obtient par la foi. Seigneur, tu sais que j'aime ta parole, alors je sais que tu me visiteras. J'ai besoin que tu me touches, j'ai besoin que tu me visites, j'ai besoin que tu me renouvelles. David a dit dans le psaume 23, « Il restaure mon âme. » C'est une expérience spirituelle qui dépasse l'entendement. Mais ces choses arrivent à ceux qui gardent sa parole. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Wow! J'aimerais souligner quelque chose de très important ici. Pour les chrétiens du monde entier, la chose la plus importante, c'est la présence de Dieu et la parole de Dieu. Et Dieu dit, la parole attire la présence. J'aime la parole de Dieu, j'attire la présence de Dieu. Tu ne pourras jamais mériter la présence de Dieu, tu ne pourras jamais aller la chercher, tu peux la fabriquer, on peut faire toutes sortes de choses, mais ce ne sera pas la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est quand Dieu vient et se manifeste. Il n'y a que Dieu qui peut démontrer sa présence. Maintenant, notez bien ceci. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait fait une promesse au peuple d'Israël. Il a dit, « Je viendrai habiter parmi vous. » Habiter, demeurer, en hébreu, c'est « chacan ». Il y a un mot, si vous êtes chrétien de longue date, il y a un mot qui fait partie des chrétiens évangéliques dans le monde entier, mais d'abord, ça vient des Juifs, c'est le mot « shekaina », la gloire de Dieu, l'habitation glorieuse de Dieu. Le mot « shekaina » n'est pas dans la Bible. Le mot « Shekinah », c'est une expression qui vient des Juifs, que nous, les chrétiens, on a attrapé, qui est une très, très belle expression, qui signifie « l'habitation glorieuse manifeste de Dieu parmi les hommes ». C'est ça, la « Shekinah ». Ça vient du « Shakan » en hébreu. Et c'est ce mot, là, ça en est en grec, mais c'est cette pensée que Jésus récupère. Et Jésus dit « Nous viendrons chez lui et nous habiterons chez lui ». La glorieuse présence de Dieu dans la vie, dans le foyer d'une personne, a été promise en Jésus-Christ à ceux qui gardent sa parole. C'est même ça dit dans Jean 1, au commencement était la parole est venue habiter parmi les hommes. Et Jean débute avec cette pensée que Dieu, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, Dieu désire venir habiter chez toi. Et je veux te dire une chose. Quand Dieu habite avec toi, les gens le voient. Souvent, nous, on ne le voit pas. La Bible dit, Moïse ne savait pas que son visage rayonnait, mais les autres le voyaient. Il y a une différence avec les chrétiens. Il y a une différence encore plus grande avec les chrétiens qui vivent dans la présence de Dieu. Les gens au bureau, les gens à l'école, les gens dans ton entourage, les gens disent toutes sortes de choses après. « Ouais, toi, t'es vraiment zen, hein? Il y a quelque chose chez toi. T'as une sorte de nirvana, et puis t'as des bonnes ondes. » On entend toutes sortes de choses comme ça. Les gens ne savent pas c'est quoi la présence de Dieu, mais ils la ressentent. Ils sont en contact à travers toi de la présence de Dieu. Je parle aux enfants de Dieu. Hein? Ils sont au contact à travers toi de la présence de Dieu. Et ce monde cherche la présence de Dieu. Et si la présence de Dieu n'est pas la chose la plus importante pour ta vie, tu as un gros problème, parce qu'on va passer l'éternité dans sa présence. Ça serait bien de s'y intéresser maintenant. Donc, la présence de Dieu est très importante. Et Jésus a promis qu'il ferait habiter sa présence chez toi. La majorité d'entre nous, on se lève le matin tôt, on n'a pas beaucoup de temps, on part au travail, on fait des grosses journées, on a la tête dans toutes sortes de choses. On se dit, mais si je vivais comme les pasteurs, oh, j'aurais le temps de prier, jeûner, d'être dans la Bible la journée longue. Je planerais, tout le monde verrait que Jésus est avec moi. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a demandé une seule chose. Chéris ma parole. Garde-la. Tiens-la. Si tu gardes ma parole, je vais m'occuper du reste. Je vais te donner un témoignage. Les gens verront que ma présence est sur toi. Les gens vont entrer dans ton appartement, vont dire, c'est pas comme chez le voisin ici. C'est différent. On va rentrer dans ton bureau, on va venir. Parfois, les gens vivent dans un petit cubicule, hein, les petits open space, là, je ne sais pas comment on dit, mais. Et parfois, c'est microscopique. Ma femme et moi, on est allés vers la bourse cette semaine pour différentes histoires. Et j'ai vu le plus petit bureau au monde. C'est pas possible qu'il y ait des gens qui louent des bureaux comme ça pour travailler, pour dire qu'ils ont un bureau à Paris en passant, tu vois. C'est pas un bureau, c'est une cellule, c'est une prison, c'est un aquarium, je sais pas. C'est infiniment petit. Mais peu importe la grandeur et la beauté de ton bureau, quand les gens vont rentrer, on va dire, il y a quelque chose de différent ici. Ils ne sauront pas comment dire. Mais Jésus va venir habiter la chacune, la présence, la shekina de Dieu va être avec toi. Pas parce que tu as fait une nuit de prière. Et oui, les nuits de prière, je ne prêche pas contre ça. On en fait des nuits de prière. Mais ce n'est pas tes œuvres qui vont attirer la grâce de Dieu. C'est de garder sa parole. C'est la seule chose que Jésus a demandé. Nous viendrons à lui, nous établirons notre demeure, chacun habiter chez lui. Et après, Jésus dit en plus, vous demeurerez dans mon amour. Incroyable. Si vous gardez mes paroles, toi, tu vas demeurer dans l'amour de Dieu. Toi, tu vas développer un style de vie grandissant. C'est pas comme ça, on plane pas, on n'est pas, voilà, on n'a pas fumé des trucs bizarres. Mais on n'est pas toujours, nous les chrétiens, dans une sorte de, non. Mais de plus en plus, on apprend à marcher avec Dieu. Et on apprend à habiter dans son amour. Comment? En gardant sa parole. Gardant sa parole. Votre joie sera complète. N'est-ce pas incroyable? Incroyable. Il y a une joie déjà chez l'enfant de Dieu que le monde n'a pas. Mais disons les vraies choses, souvent elle n'est pas complète. Jésus dit, et le mot complet ici en grec, c'est parfaite. C'est fini. La boucle est fermée. Tu ne peux plus y rajouter. Jésus dit, ta joie sera parfaite si tu gardes ma parole. Amen. Maintenant, qu'est-ce que garder signifie? Premièrement, qu'est-ce que garder ne signifie pas? Parce que certaines traductions de la Bible, j'aime tous les traducteurs de la Bible, je les bénis, alléluia, amen, Jésus les aime. Mais je ne suis pas d'accord. Parce que certaines traductions de la Bible ont dit, si vous pratiquez mes commandements, ce n'est pas le mot que Jésus a utilisé. Et pour moi, c'est même pas la pensée de Dieu. Jamais Jésus n'aurait mis un joug sur ses disciples qui n'auraient pas pu tenir. C'est vous pratiquer mes commandements. Dieu savait qu'on ne peut pas pratiquer ses commandements. Dieu a dit, je ferai que vous pratiquiez mes commandements. Comprenez-vous? Jamais Jésus aurait mis cette condition énorme, la barre que personne ne peut atteindre. Si vous pratiquez mes commandements, là, on est vraiment dans une religiosité où on essaie d'atteindre un sommet de perfection religieuse. Et si on arrive à ce sommet, enfin, on sera béni de Dieu. Jamais, 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 jamais. C'était pas la pensée de Jésus. Et c'est pas le mot que Jésus a utilisé dans le texte ici. Le mot que Jésus a utilisé dans le texte ici signifie seulement garder. C'est pas plus compliqué. Je ne sais pas pourquoi on rajoute des trucs à la Bible. Jésus a dit, si vous gardez comme la pièce de monnaie dans la main de ma fille, c'est tout ce que Dieu te demande. Je t'ai parlé, garde-le. Je t'ai touché, garde-le. Je t'ai enseigné, garde-le. Je t'ai révélé des choses, garde-le. Garde, 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 garde. Ferme ta main, ferme ton cœur, protège tout. C'est tout ce que Dieu demande. Le mot signifie ceci, préserver du vol. C'est pas pareil, hein? Ça n'a rien à voir avec une religiosité où on essaie de pratiquer des choses pour être agréable à Dieu. Ça n'a rien à voir avec ça. Préserver du vol. Préserver de la détérioration. Garder une chose intacte. Le Seigneur t'a parlé, oui, mais tu n'es pas digne. Mais il y a ci, mais il y a ça. Mais les circonstances n'ont pas changé. Et tu es encore pareil, c'est encore pareil. Et tout à coup, les choses ne sont plus intactes. Les promesses de Dieu ont commencé à être ternies, vieillies. Elles ne sont plus aussi pures qu'au moment où Dieu te les a donnés. Tout ce que Jésus dit, c'est « Moi, je te donne une parole, moi, je vais faire tout le reste, mais toi, préserve. Toi, garde ce que je t'ai donné. » Ça veut dire même étudier une chose, s'y conformer. Je t'ai enseigné des choses, je t'ai appris des choses dans ta marche avec moi. Tout ce que je te demande, tu t'y conformes, tu les gardes, tu les protèges, tu les préserves de la perte. Ça veut dire littéralement tenir une chose en main, prendre soin. La seule chose que Dieu nous demande, c'est un choix. À chaque instant de notre vie, ce n'est pas un choix qu'une fois dans ta vie, c'est un choix au quotidien. Quand les doutes viennent, quand toutes sortes de choses viennent contre ce que Dieu t'a dit, tu ne vas pas me piquer mon truc, toi. Comme ma fille, rouvre ta main. Non. Parfois, le diable, il va venir. Hey, rouvre ta main, on va regarder ce que Dieu t'a dit. J'ai rien à voir avec toi. Et tu pars, tu ne restes pas là. Les gens viennent te voir. Oh, Dieu t'a dit, mais... Oui, mais il faut quand même. Ah, ouais, mais il faut être attard, il faut considérer, il faut ceci, il faut cela. Et tu dis, non, je ne veux pas ouvrir ma main. Je garde, je tiens de la perte. Je veux garder en main, je veux prendre soin de ce que Dieu m'a dit. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Ça signifie d'abord et simplement de chérir quelque chose. Dieu n'a jamais mis sur nous le joug de connaître beaucoup de choses sur Dieu. Je m'explique. Peut-être que tu es tout nouveau dans ta foi, tu commences à marcher avec Dieu et tu connais très peu de versets de la Bible et tu dis, mais vivre dans l'amour de Dieu, avoir une joie parfaite et toutes les promesses de Dieu, je les aurai quand je serai un chrétien mature. Non. Avant la quantité, la qualité. Déjà, même si tu sais peu de la Bible, déjà ce que tu sais, garde-le. Mais Dieu m'a peu parlé, mais il t'a parlé, garde-le. De toute façon, on n'a pas à se casser la tête, on ne peut pas devenir chrétien sans que Dieu nous parle. J'ai raison. Un chrétien, c'est quelqu'un que Dieu a appelé. On était perdu, la voix de Dieu a retenti dans notre cœur, on a commencé à suivre le Seigneur. On n'est pas chrétien par tradition, on n'est pas chrétien par héritage familial, on n'est pas chrétien parce que nos parents étaient chrétiens, on est chrétien parce que Dieu nous a parlé. Donc, le chrétien connaît la voix de Dieu. Donc, si tu es chrétien, déjà, il y a eu des moments dans ta vie où Dieu t'a parlé. Même si tu n'as pas beaucoup parlé, garde-le. Garde-le. La quantité engendre, la qualité engendre toujours la quantité. On commence par chérir ce que Dieu nous a donné et Dieu va rajouter. Et au long de ta vie, Dieu va te parler encore et encore. Mais déjà, chérissons ce que nous avons en Dieu. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. Trois paroles que Jésus a donné. Entre Jean 14 et Jean 17, il y a trois différentes paroles que Jésus a données en grec. Nous, on en connaît deux. Jésus dit « gardez mes commandements » ou Jésus dit « gardez mes paroles ». Mais en grec, c'est un petit peu différent. Il y en a trois, il n'y en a pas deux. J'aimerais vous les montrer. Si nous gardons ces trois choses, on pourrait dire presque les trois trésors que Jésus laisse à ses disciples avant la croix. Si nous gardons ces trois trésors, nous aurons les promesses de Dieu. Premier trésor. Jésus dit, si vous gardez mes commandements, le mot ici est littéralement une prescription. Si vous gardez mes prescriptions, ça signifie un commandement formulé avec toutes ses précisions. Dans nos vies, parfois Dieu nous dit, une des premières choses qui arrive quand tu deviens chrétien, c'est que Dieu te dit, ça c'est mal et ça c'est bien. J'ai raison? Quand on est sans Christ, on ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal. Quand on vient à Christ, il y aurait quelque chose. Christ est tranchant, je m'excuse. Il nous aime, mais il est tranchant. Schlac, ça c'est mal, tu ne touches plus à ça. Et là, Jésus dit à ses disciples, je vous ai enseigné des choses tranchantes. Je vous ai enseigné des commandements, des prescriptions qui étaient formulées avec une grande précision. Ces gens-là, tu ne les fréquentes plus. Tu ne vas plus là-bas. Tu ne sors plus en boîte. C'est clair. Tu ne vis plus comme ça. Tu ne t'habilles plus comme ça. Tu ne parles plus. Il y a des choses très, très claires que le Seigneur a mis dans nos vies. Mais je vais aller plus loin. Dans son argumentation de ce texte, Jésus va construire une pensée qui devient parfaite. Il amène les prescriptions à être une prescription. Il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Mais il construit son idée, il la révèle progressivement, il arrive à cette révélation ultime et il dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Et même il dira dans les évangiles, toute la loi est là. Même Paul le dit, toute la loi est là. Donc la première chose que le Seigneur me demande, là ça fait super mal, vraiment ça va déchirer, attention, c'est de ne plus penser à moi, mais pensez aux autres. Ça fait mal, hein? Pas eu d'amen, hein? Mais Jésus dit, si vous gardez ce commandement, ça veut dire quoi? S'il est précieux pour toi, je ne te demande pas de commencer à le pratiquer, devenir fou et même plus de te laver. Non. Oui, il faut prendre soin de nous, je comprends. Mais s'il est précieux pour toi, si c'est précieux pour toi d'aimer les autres, Dieu va bénir ta vie. C'est ça que ça veut dire. Deuxièmement, Jésus dit, si vous gardez mes logos, Logos, ça veut dire parole en grec. Mais logos, c'est des paroles dites. OK? Le deuxième, c'est logos, et le troisième, c'est rhéma. Maintenant, il faut savoir que si vous avez étudié un peu le grec ou la Bible, vous savez que ces deux mots ont été très discutés et ont fait couler beaucoup d'encre. Et certains disent que le rhéma, c'est ceci, c'est extraordinaire, le logos, c'est moins. D'autres vont dire non, ils sont pareils. Il y a un juste équilibre entre les deux. Ils ne sont pas pareils, mais ils sont les deux équivalents. Les deux sont très importants. Le logos et le rhéma, les deux sont précieux pour Dieu. Jésus dit, si vous gardez mes logos, et les logos, c'était les moments où Jésus avait eu de longs enseignements, je suis en train de perdre mon micro, m'excusez, c'était des moments où Jésus avait eu de longs enseignements avec ses disciples. Un logos, c'est une parole qui a été dite pendant très longtemps. On pourrait dire que c'est un discours. Je n'oserais pas dire que les paroles que je suis en train de vous dire, c'est des logos de Dieu. Mais en grec, un grec me regarderait et dirait, « Pasteur Christian est en train de faire du logos. Il est en train d'enseigner. Il est en train de partager quelque chose de long. Ça prend du temps, un logos. » Et Jésus prend ses disciples à part et leur dit, « On a eu des moments ensemble où j'ai pris le temps de vous expliquer des choses. J'ai eu des logos avec vous. J'ai eu des enseignements. Je vous ai montré les principes du ciel. La seule chose que je vous demande maintenant, gardez-le. » Gardez ces enseignements. Revoyez-le. Ces enseignements dits sont devenus écrits. Et parce que Jésus vient, il leur dit, la seule chose que je vous demande maintenant, c'est de les garder. Ils sont inspirés. Toute écriture est inspirée de Dieu. Tout ce qu'il y a dans la Bible. Il lit les hommes de Dieu qui ont marqué l'histoire, ils disent tous la même chose. Ce qui fait une différence dans notre vie, c'est quand on a un regard différent sur la Bible. Plus je prends la Bible au sérieux, plus Dieu me prend au sérieux. Plus je prends le logos et que je vais vous dire un grand secret de la vie, OK? Franchement, il n'y a pas de remède miracle. À chaque fois que tu ouvres la Bible, dis, regarde-moi bien là. À chaque fois que tu ouvres la Bible, dis-toi, wow, c'est tout. C'est la parole de Dieu. Tu ne fais pas ça quand tu ouvres le Figaro ou le Monde ou le Parisien, tu dis pas, tu dis souvent, tu dis, ah. Mais là, quand tu ouvres la parole de Dieu, tu dis, wow. C'est la parole de Dieu. Même si c'est une généalogie. Même si c'est des trucs qu'on ne comprend pas. Fais confiance à Dieu. Mais Jésus dit, si vous chérissez mes enseignements, les promesses du royaume des cieux sont pour vous. Je termine bientôt. Après, Jésus va parler de ses rhéma. Il va dire, si vous gardez mes rhéma. Et les rhéma, c'est quelque chose de différent. Les rhéma, ce sont de courtes proclamations. Les rhéma, ce sont, on pourrait dire, des annonces. Le mot rhéma signifie premièrement, dans son vrai sens du terme, un énoncé. Quelque chose qu'on a annoncé qui est court. Et quand tu regardes tous les textes du Nouveau Testament où Jésus a utilisé le mot rhéma, ce n'était pas des longues discussions. Jésus dit à ses disciples, le Fils de l'homme sera livré aux Juifs. Ils ne comprirent pas son rhéma. Tu vois? C'était court ce que Jésus a dit. Dans un instant, Pasteur Randy va venir faire des annonces. Ça sera court, c'est un rhéma. Pasteur Christian a enseigné la Bible, c'était plus long, c'est un logos. Et il y a des moments dans ta vie où Dieu te parle, c'est des enseignements que tu comprends. Par exemple, c'est des logos. Tu as saisi, par exemple, l'importance d'avoir une vie de prière. Tu as saisi l'importance d'aider les pauvres. Tu as saisi l'importance de la générosité. Tu as saisi l'importance du partage. Il y a des grands principes du royaume de Dieu, ce sont les logos du royaume de Dieu. Mais il y a des moments dans nos vies où Dieu nous parle, ce sont des courts moments. Où Dieu, à un moment donné, tu te tournes vers Dieu, tu cries à Dieu, « Seigneur, parle-moi, puis regarde mon bien. » À un moment donné, Dieu te parle, ça peut être très court dans ton cœur, ça peut être simplement « Je suis avec toi. » Ça vous est déjà arrivé? Ne crains pas. T'entends une voix. Paul dit que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit. Ce sont de courts témoignages. Il y a des moments dans ta vie, j'aimerais vous inviter à développer une oreille pour la voix de Dieu. Ça peut être un court verset, ça peut être quoi? Ça peut être quelqu'un qui te parle, ça peut être à travers une louange, ça peut être dans le métro, ça peut être n'importe où. Mais si tu tends l'oreille, tu auras des rhéma, des courtes révélations de Dieu. Où Dieu, à un moment donné, tu appliques pour un nouveau travail, tu es allé faire une entrevue, et il y a un rhéma qui dit, non, touche pas à ça. Chérie, j'ai pas pris le boulot. Ah bon, pourquoi? Je sais pas, j'ai pas la paix. J'ai prié et tout, il y a vraiment quelque chose qui m'a enlevé la paix. C'est un rhéma. C'est un court énoncé de Dieu. Maintenant, regardez-moi bien. Jésus dit ceci. Garde mes commandements. Garde ce grand commandement d'aimer les gens. Un, d'abord. Deux, garde les logos. Garde-les. chéris les principes du royaume de Dieu que tu as découvert et que je t'ai enseigné moi-même personnellement, dit le Seigneur. Et troisièmement, toutes les fois où Dieu t'a parlé courtement dans ton cœur, ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Des années plus tard, le Réma est encore vivant. Parce que, écoutez-moi bien, il y a quelque chose de différent entre la voix de Dieu et la voix des hommes. Moi, je l'ai appris dans ma vie. C'est que la voix des hommes, elle s'oublie et elle s'éteint. Mais la voix de Dieu, si je la garde, elle ne s'éteint pas et elle ne s'oublie pas. Elle continue à vibrer dans mon cœur. Des années plus tard, il y a des choses que Dieu m'a dit qui vivent encore en moi, des courtes phrases, elles vivent en moi. Mais la seule chose que Dieu me demande, Christian, garde. Moi, je vais faire le reste. Garde les rémas. Quelqu'un dit Amen. Hallelujah. Regardez. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de réma qui sort de la bouche de Dieu. Mes paroles sont réma, Jésus a dit. Pierre a dit à Jésus, tu as les réma de la vie éternelle. N'est-ce pas extraordinaire? Nous avons besoin d'apprendre à garder simplement les commandements, les logos et les réma de Dieu. Et Dieu va faire le reste. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes tentés de douter. La seule chose que Dieu nous demande, garde-les, en d'autres mots, ne doute pas. Un homme de Dieu que j'aime beaucoup a dit ceci, ne laissez même pas l'ombre du doute s'approcher de vous. À la vie, à la mort, crois en Dieu. J'aimerais même vous dire ceci, il faut que tu crois dans ces trois paroles pour le meilleur et pour le pire. Quand il y a un mariage entre un homme et une femme, je ne sais pas comment ça se fait en France, j'ai fait un seul mariage, mais je pense qu'il y a comme des vœux. Et nous, dans les vœux au Canada, on dit pour le meilleur et pour le pire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le pire peut t'éloigner de Dieu, mais aussi le meilleur. Dieu t'a béni, Dieu t'a béni, tu commences à vivre dans le meilleur. Meilleur appartement, meilleure voiture, meilleure situation financière, meilleurs amis, meilleure vie, confort. Qu'est-ce qu'il y a? Tu commences à avoir plein de choses que Dieu t'a données et le meilleur t'éloigne. Le pire peut t'éloigner, mais le meilleur aussi t'éloigne. Et à un moment donné, il faut faire un choix dans ta vie. Pour le meilleur et pour le pire, ce sera toujours la parole de Dieu que je chérirai. Tu peux me donner des milliards de dollars, j'aimerai Dieu d'abord. Même dans la pire situation de ma vie, je choisis de chérir la parole de Dieu. Parce qu'il y a des moments où la vie fait que le meilleur peut t'éloigner, peut te tenter de t'éloigner de Dieu. Et le pire aussi, peut arriver où tu dis, mais j'ai mis ma confiance en Dieu. Et là, il y a quelqu'un qui te souffle à l'oreille. Ouais, tu as mis ta confiance en Dieu. Tu as vu toutes les fois où tu as récité les versets, toutes les fois où tu as lu, tu as souligné, tu as pleuré. Et regarde où ce que tu en es aujourd'hui. Ça ne marche pas. On fait quoi à ce moment-là? Je ne veux même pas t'entendre. À la vie et à la mort, je mets ma confiance en Dieu. Je chérirai. Jésus a dit à ses disciples, gardez mes paroles. Parce que Jésus savait que les paroles de Dieu allaient être testées. Elles allaient être tentées et elles allaient être testées, secouées, tirées. Quelqu'un allait venir pour essayer de les arracher. Jésus dit, la seule chose qu'il faut que tu fasses, tu gardes ce que je t'ai enseigné. Tu gardes les courtes révélations, les rémas. Tu gardes le commandement. Tu continues à aimer, même si tu souffres, tu aimes encore les gens autour de toi. Même si tu as des besoins, tu continues à prendre soin des besoins autour de toi. Tu gardes ces trois paroles et moi, dit le Seigneur, je vais faire tout le reste pour toi. Et même s'il y a des moments où tu as l'impression que ça ne marche pas, j'aimerais te dire ceci, ce n'est pas toujours comme ça. Il y a des moments où c'est vrai qu'il y a des silences de Dieu, mais à un moment donné, Dieu honore la foi de ses enfants. Et Dieu dit, c'est assez, maintenant je vais honorer ma fille, je vais honorer mon fils. Amen. Hallelujah. En terminant aujourd'hui, tout scribe, Jésus a dit ceci, tout scribe, et scribe on peut traduire par chercheur, tout chercheur instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Ça veut dire quoi, ça? En terminant, très rapidement, ça fait quatre fois que je termine, mais je vais vraiment terminer un jour. Le mot trésor ici, c'est très intéressant parce que Jésus, c'est pas un trésor comme on pense, c'est un dépôt, on pourrait dire un cellier. C'était une pièce où on avait de la nourriture en réserve pour des invités ou des occasions spéciales. Et Jésus dit, tout scribe, tout chercheur instruit selon les choses du royaume de Dieu est comme un homme qui est intelligent, qui a une réserve de nourriture. Si quelqu'un vient chez lui, il surprend. « Hé, la famille est arrivée! » Pas de problème, j'ai ce qu'il faut. Il y a des moments dans ta vie où tu es surpris. mauvaise nouvelle. Doute, peur. Tu dis, ah, j'ai ce qu'il faut. Dieu m'a parlé. J'ai un trésor, j'ai une promesse. Il y a des années, Dieu m'avait enseigné ce principe. Voyez-vous ce que Jésus dit? Celui qui est sage, c'est celui, et je souligne vraiment l'importance de cette prédication aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une ère où vous pouvez écouter au moins 360 000 prédications par semaine. Vous pouvez lire 20 bouquins chrétiens en même temps, si vous voulez. Vous pouvez tout télécharger ce que vous voulez. Vous avez accès à une quantité énorme et infinie de trucs évangéliques. Mais attention, ce qui fait la différence, ce n'est pas d'écouter plein de prédications. Ce qui fait la différence, c'est de garder la parole de Dieu. Mieux vaut écouter un message par semaine, mais le garder. Et même, ce n'est pas important si tu ne traverses pas la Bible. L'important, c'est que la Bible te traverse. T'es mieux de chérir un verset toute la semaine et de le méditer et de le prier et de le chérir et de louer Dieu sur cette parole que de lire la Bible et finalement ça tourne à rien. Jésus n'a pas dit de connaître beaucoup de choses. Jésus a dit garder, préserve. Amen. Hallelujah. Regardez bien. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et le mot que David utilisait, c'est provisionner. Je provisionne ta parole dans mon cœur. Je chéris ta parole. Je veux dire un jour, plus tu es dans la parole, moins tu as envie de pécher. Plus on est dans la parole de Dieu, moins on est dans les choses du péché. Pourquoi? Parce que regardez bien ce qui apparaît à l'écran. Ce qui absorbe nos pensées exerce une puissante influence sur nous et laisse une marque profonde sur notre caractère. Je le relis. Ce qui absorbe nos pensées, donc si tu penses toujours au péché, ça va exercer une puissance sur ta vie. Vrai ou vrai? C'est sûr, c'est vrai. Mais si la parole de Dieu absorbe mes pensées, eh bien la parole de Dieu va exercer une puissance dans ma vie. David l'avait compris, il dit, je sers, je provisionne ta parole dans mon cœur, c'est ça qui m'aide à ne pas pécher. Et plus je suis dans la parole de Dieu, plus la parole de Dieu exerce une puissance dans ma vie et plus elle laisse une marque sur mon caractère. En d'autres mots, quand Jésus a dit « Gardez ma parole », Jésus savait que la parole ferait son travail de nous changer et de nous transformer. Amen. Deux petits conseils en terminant. Lire et écrire. J'aimerais vous encourager à quelque chose de très pratique. Écrivez ce que Dieu vous dit. Ayez un petit cahier, ayez un petit livre. Quand quelque chose est important pour toi, tu fais le nécessaire. Et moi, j'ai des dates dans ma Bible. Telle année, tel jour, Dieu m'a parlé pour tel truc. Il y a des choses qu'il me l'a dit, telle date, et plus tard, il l'a fait. Il y a des choses qu'il me l'a dit, il ne l'a pas encore fait. J'attends encore, mais j'ai confiance. Ma femme, elle tient un journal de tout ce que Dieu a fait pour nous à travers les années. Quand quelque chose est précieux, tu le gardes, tu le chéris, les rémas, les paroles, les logos, les commandements, tu les chéris dans ta vie. Je termine avec ceci, les musiciens vont s'approcher, mais on va prendre un moment de prière rapidement. Il y a des années, lorsque je suis arrivé en France, j'ai prêché dans le nord de la France, il y avait un jeune homme. C'était un rassemblement de jeunes. Il y avait un jeune homme d'à peu près 16-17 ans, assez réservé, calme, pas extravagant. Il était sur son petit ordinateur dans le hall de l'église, un geek, il voulait devenir informaticien. Et à première vue, on n'aurait pas dit que c'était un jeune homme vraiment qui avait un cœur pour Dieu. Mais on a gardé un petit peu contact ensemble à travers les années. Et à un moment donné, le Seigneur l'a béni. De toutes sortes de façons. Il a traversé aussi des moments très difficiles dans sa famille. De toutes sortes de façons, il a vécu des moments difficiles. Mais Dieu a été là. Dieu a mis sa main sur lui. Et il a décroché un boulot. Il s'est retrouvé à travailler à Shanghai, en Chine, pour une société française là-bas, informaticien pour une société française. Et il se retrouve sur le board, il se retrouve sur le conseil d'administration d'une église là-bas, une grande église, à Shanghai, et le pasteur dit, on va faire une conférence, OK? Mais à cause des autorités chinoises et tout ça, il faut faire attention. Si on invite quelqu'un de très connu, un pasteur connu, il y aura trop de monde qui va venir et les autorités chinoises pourraient vraiment annuler la conférence. Donc, il faudrait trouver un pasteur que personne ne connaît. Et lui, il lève la main et dit, moi, je connais quelqu'un. Il s'appelle Robichaud. Personne ne connaît. Et le pasteur dit, personne ne connaît. Non, non, il n'est pas connu. Bon, on va l'inviter. Je reçois cette invitation à aller prêcher en Chine parce qu'il avait une idée aussi. C'est un jeune homme très futé. Il allait se marier. Et il voulait que je fasse les noces. Donc, il dit, on le fait venir, il fera une pierre deux coups. Donc, on fait la noce. Et la veille de la noce, il y a un petit restaurant, il y a comme une petite cérémonie au restaurant de célébration, d'action de grâce, tout ça, avec la fiancée, les familles, je suis invité. Et je me souviens, on marchait. Tu pouvais venir, hein, Garicia. On marchait comme ça sur le trottoir. Et j'ai eu comme un flash. Je me dis, qu'est-ce que je fais en Chine? Et je me retourne vers lui, je dis, c'est ta faute si je suis en Chine. Et comme ça, tu vois. Et on marche, et je commence à réfléchir, et je le regarde, je dis, Dieu était bon pour lui. Il a traversé des moments difficiles, mais globalement, Dieu l'a béni. Et demain, il va se marier avec une fiancée extraordinaire. Dieu était bon pour ce jeune homme. J'ai une bonne idée de ma théologie. Okay? Paul parle de son évangile. J'ai une bonne idée de ce que je comprends de l'évangile, mais j'aimerais que lui me dise comment il voit les choses. Alors, je suis un peu naïf. Je dis, dis-moi, tu es vraiment béni de Dieu, toi. À travers tout ce que tu as traversé, Dieu était bon pour toi. Je ne peux pas dire certaines choses. Sa famille a traversé des moments très difficiles. Et il en est sorti la tête haute. Ça a été long, ça a pris des années, mais il en est sorti la tête haute. Et on marche sur la rue. Et je lui dis, dis-moi, qu'est-ce qui a fait dans ta vie que Dieu a été si bon pour toi? Et c'est un garçon réfléchi, c'est un jeune homme réfléchi. Il ne répond pas. Puis il regarde par terre, on marche. Il réfléchit. Et il s'arrête. Un moment divin sur la rue. Il se tourne vers moi. Il me dit, pasteur Christian, j'ai fait des erreurs dans ma vie, mais j'ai pris Dieu au sérieux. J'ai pris Dieu au sérieux. Et quand il a dit ça, c'est comme si le temps s'était arrêté. J'entendais plus les voitures, j'entendais plus rien. Je dis, ben voilà. C'est tout ce que Dieu demande. Si vous gardez ma parole. Et à travers tout ce qu'il a vécu, vous connaissez pas le foot américain, les Français, mais dans le foot américain, c'est un peu comme au rugby, on court avec un ballon. Et c'est simple, il ne faut pas que tu te fasses arracher le ballon. Et tu as tout l'univers qui te rentre dedans pour te prendre ton ballon. Tu as des gladiateurs, des géants qui arrivent. Moi, j'ai joué à sport, c'est terrible. Et tu as juste envie de t'en sortir, tu vois. Et parfois, ta vie chrétienne, elle est comme ça. Et Dieu t'a donné une parole. Tu cours avec la parole. Tu te prends un coup. Tu te prends un doute. Les avis des uns, les avis des autres. Le temps passe, il n'y a rien qui change. Ça devient mal en pire. Mais tu gardes la parole. Tu gardes la parole. Tu gardes la parole. Et à un moment donné, tu arrives à la ligne d'arrivée. Et c'est toi qui as gagné. Parce que tout ce que Jésus nous demande, c'est garder ma parole. Continue à aimer les autres. Mes commandements. Mes enseignements. Les principes du royaume de Dieu. Et les petits moments où j'ai parlé dans ton cœur. Garde-les. Et Dieu dit, moi, je vais faire le reste. Amen. On se lève ensemble. Hallelujah. Hallelujah. On doit vraiment terminer bientôt parce que on doit laisser le théâtre. J'aimerais simplement qu'il y ait un moment de prière maintenant entre Dieu et toi. Ou maintenant, toi, tu dis à Dieu, Seigneur, je veux garder ta parole. Le Seigneur va te donner la force de le faire. Le Seigneur va te garder. Et Jésus a dit, garde-les. Tu gardes la parole, Dieu te garde. Le Seigneur va te garder. Si tu veux garder la parole de Dieu, Dieu va te garder. Toutes les années qui sont devant toi, Dieu va te garder. Mais garde la parole. Ne doute pas. Des promesses pour ton couple, des promesses pour ta vie, des promesses pour tes enfants, des promesses pour ta famille, des promesses de te changer. garde la parole. Je ne vois rien, je ne sens rien, je me fais rentrer dedans par toutes sortes de doutes, mais je garde la parole. Je garde la parole. Dis-lui maintenant au Seigneur, Seigneur, je garderai ta parole, Seigneur. Garde-moi, aide-moi à garder ta parole, Seigneur. Mais Seigneur, je veux garder ta parole. Je veux garder ta parole, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Seigneur, nous concluons aujourd'hui en te disant, Seigneur, nous voulons garder ta parole, Seigneur. Tout ce que tu nous demandes, Seigneur, aujourd'hui, c'est un choix, Seigneur. Est-ce qu'on peut prier ensemble en terminant? On peut prier une prière commune tous ensemble. J'aimerais vous inviter à répondre avec moi, en répétant après moi, en disant, Seigneur Jésus, aujourd'hui, dans le secret de mon cœur, je choisis de garder ta parole. Alors, Seigneur, garde-moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Il faut vraiment écourter parce qu'on doit quitter dans un instant. Pasteur Andy vient. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.